Charles-Louis-Philippe, l'eau bénite. Certes, le jour du Vendredi Saint, il pleut. On ne peut pas dire que le lendemain soit absolument beau, mais le temps commence ses préparatifs. Le ciel est couvert parce que notre Seigneur est mort, mais il ne tombe pas une seule goutte d'eau. Et il fait très doux déjà, parce que notre Seigneur est à la veille de sa résurrection. Bien que nous fussions en vacances, nous n'avions organisé ni partie de bar, ni partie de cache-cache, ni partie de guerre, ni partie de chasse. Nous jouions avec le beau temps. Il nous avait entraînés, Gilardin et moi, jusque sous les beaux platanes, qui, plantés sur le parvis, sont si hauts qu'ils ombragent l'église. Il nous avait entraînés jusqu'au seuil de celle-ci. Dans notre froide église elle-même, le beau temps était entré. Le jour du Samedi Saint, les églises contiennent un grand mystère à cause de leurs cloches. Tous les ans, le mercredi de la Semaine Sainte, les cloches quittent leur clocher. Comme on jeûne dans nos villages, les cloches voyageuses les quittent et s'en vont à Rome. Les cloches gourmandes pour y manger du lard. On nous l'avait dit, nous le savions. Elles ne revenaient que pour assister à la messe de Pâques. Nous entrâmes dans l'église sans cloche. Les cordes auxquelles se suspendaient d'ordinaire le sacristain et les enfants de chœur pour sonner les offices n'avaient pas été retirées, puisqu'elles devaient servir le lendemain. Mais on en avait attaché l'extrémité à des clous plantés si haut que nous ne pûmes les atteindre et tirer sur elles. Pour nous consoler, nous fîmes un tour, nous arrêtant un peu dans toutes les chapelles. Celle de Saint-Roch est la plus belle, parce que celui-ci est accompagné d'un chien qui montre une grosse langue. Gilardin monta sur un banc pour la toucher. Comme nous allions sortir, nous nous aperçûmes que nous n'avions pas remarqué un grand baquet plein d'eau qui, placé près de la porte d'entrée, la barrait pourtant tout entière. « C'est l'eau bénite, » dit Gilardin. Je veux croire aujourd'hui encore que ce fut de Gilardin qu'émana la proposition suivante. « Si nous enlevions le bouchon. » Mais il est bien certain que nous y travaillâmes tous les deux. Le bouchon tenait solidement, ayant été enfoncé par le sacristain qui était un homme de grande taille. Nous eûmes beaucoup de mal. Je ne vois encore l'opération terminée, sautant les marches d'un seul coup et courant dans la rue de l'église. Nous n'avions plus besoin de jouer avec les choses pour trouver à la vie un grand goût. Nous ne regardions plus ni le beau temps, ni rien de ce qui existe en ce monde. La joie en nous était si forte qu'elle nous aidait à courir. Je ne sais pas ce qu'il advint de Gilardin. J'arrivais chez mes parents, tout battant encore. J'atteignis ma mère, je lui criais, comme cela se dit chez nous dans notre langage. « Maman, Gilardin et moi, nous avons envoyé l'eau bénite. » Je lui donnai toutes les explications avant de respirer. Elle appela mon père qui travaillait dans la boutique. Il a envoyé l'eau bénite avec Gilardin. On ne sauta pas sur moi comme cela se pratique d'ordinaire. J'expliquai davantage encore. Je pense que mon père eut des regrets et une certaine admiration, car il s'écria. Jamais je n'aurais imaginé ça. Ce ne fut qu'un peu plus tard, lorsque son sérieux le reprit, qu'il put ajouter. Surtout, mon petit, ne le dis à personne. On me conseilla de rester assis sur ma chaise et de ne pas me montrer dans la rue. J'ai toujours cru que Dubuisson, le sacristain, fut averti de la chose par Dieu lui-même. Il habitait en face de chez nous. Sa porte était fermée. Nous ne vîmes personne entrer dans sa maison. Il sortit soudain avec fracas. Certes, il avait les jambes longues et, d'ordinaire, marchait à grands pas. Mais cette fois-ci, nous eûmes à peine le temps de l'apercevoir. Il enfilait la rue pour se rendre à l'église. Il levait le bras et semblait tendre la main pour que le ciel l'aidât à marcher plus vite. Ce fut 5 minutes plus tard que nous vîmes monter Mademoiselle Le Rondeau. Elle s'arrêtait devant chaque porte pour dire « J'ai 70 ans. Pour une fois que je quitte l'église pendant un quart d'heure, il faut bien que cela arrive pendant que je n'y suis pas. » Elle n'avait rien vu, mais elle avait tout appris, et elle disait ensuite « Je monte chez les dames Le Boucher pour en parler avec elles. » Les dames Le Boucher étaient deux sœurs, qui avaient épousé les deux frères, et qui toutes les deux étaient veuves. On ne les voyait jamais, parce qu'elles étaient très riches et passaient tout leur temps dans leur château. Elles s'y étaient même fait aménager une chapelle pour prier Dieu chez elles et n'avoir qu'un pas à faire pour espérer revoir leur mari au ciel. Elles n'étaient pas mêlées au nombre des vivants. La dernière fois qu'on était venu les arracher à leur solitude, c'était 3 ans plus tôt, quand le tonnerre était tombé sur les maisons d'école des sœurs. Elles ne mirent pas longtemps à descendre. Bien qu'elles eussent les moyens de faire confectionner leur chapeau à Paris, elles descendirent en cheveux. Mademoiselle Rondeau avait du mal à les rejoindre, chaque fois qu'elle s'était arrêtée pour dire « Nous allons en conférer avec monsieur le curé. » Bordeaux, le forgeron, lui-même, qui ce jour-là était en ripaille, s'arracha aux délices de l'auberge du Petit Salé dans laquelle il buvait. On le vit dans la rue. Il en occupait toute la largeur pour que l'événement qui le faisait marcher tînt plus de place. Il parlait latin pour que son sentiment fût plus solennel. Il chantait « O benita renversare dans iglesia futire campo ». J'eus bien du malheur au milieu du plaisir. Pour ceux qui ne descendirent pas jusqu'à l'église, la maison de Dubuisson, le sacristain, fut un centre d'attraction. Joséphine Dubuisson, la femme, se tenait en haut des marches et présidait une importante assemblée. Annette Petit-Paton, la femme de ce sabotier qui, un jour, pendant le sermon que faisait un père capucin, avait crié « Le plus grand pécheur, c'est moi !» Annette Petit-Paton, voyant approcher son mari, lui criait « Va-t'en, ivrogne! Comment faut-il que les enfants aient du respect pour l'église pendant que les hommes n'en ont pas ?» J'eus bien du malheur. Il ne me fut pas permis de me mêler à ce groupe dont faisaient partie tous mes voisins. Mon père avait quitté son travail pour les rejoindre. Il riait à son aise. Mais ma mère était restée à la maison pour me surveiller et me commander « Toi, je te défends de sortir. » J'appris même que l'on craignit un moment une dispute parce que le gros Gignoux, le maçon, qui ne faisait jamais attention à rien, ayant, par mégarde, posé le pied sur la patte du chien de M. Olivier, le domestique de celui-ci lui cria « Enfin, vous n'allez pas estropier mon chien !» Je ne pus assister à aucun des événements de ce grand jour. Les enfants allaient au galop, leurs pieds légers les transportaient au lieu de leurs désirs. Les personnes qui revenaient de l'église nous annonçaient que, tous en bande, ils étaient réunis sur la place. Ils eurent la chance d'assister à l'explication qui eut lieu entre le curé et le sacristain. Ils en entendirent toutes les paroles, sans que personne les fît s'écarter. Le sacristain voulait être plus en colère que monsieur le curé. Il disait « Et il faut que je m'échine à aller pomper de l'eau. J'en ai pour une bonne heure. On n'en a jamais fini avec votre église. » Monsieur le curé disait « Voilà ce que c'est que d'être aimable avec les gens. Leurs enfants débouchent votre baquet d'eau bénite. Ils prennent toutes les familiarités, avec le curé d'abord. et avec le bon Dieu ensuite. » Le sacristain répondait, « Pour le dérangement que ça vous cause, vous n'avez qu'à la baptiser. Mais moi, j'ai attiré d'autres eaux. » Avec tout autre que monsieur le curé Belligrand, il eut perdu sa place. Il était tout rouge, il bégayait, il manquait à ne pas arriver à trouver le mot « baptisé ». Mon camarade Bello, qui assistait à la scène, m'a dit qu'ils avaient tous bien ri. Ils n'avaient jamais vu un curé en colère. Tout le jour, je dus rester sur ma chaise. Il se passa bien des événements dont le récit n'est pas parvenu jusqu'à moi. Monsieur le curé bénit un baquet d'eau, auprès duquel les dames qui étaient membres de la confrérie des mères chrétiennes organisèrent un service de surveillance. Tous les enfants de l'école venaient les voir, jusqu'à monsieur Berger, l'instituteur, qui fit semblant de se promener pour les contempler en passant. Je ne quittais ma chaise que pour aller au lit après la soupe. Je ne quittais le lit le lendemain que pour aller à la messe sous la conduite de ma mère. Je dus entendre et subir jusqu'au bout, sans broncher, le sermon de monsieur le curé. Il disait « La bénédiction de Dieu était venue jusqu'à vous. Vous l'avez chassée. Vous n'avez pas élevé vos enfants dans la crainte du Seigneur. L'eau qui lavait les péchés du monde s'est écoulée dans votre église. Le jour viendra où l'on vous en demandera compte. » Ma mère sentit une grande honte dans le fond de son cœur. J'eus beaucoup à rougir.